Alors bonsoir à tous. On va entamer cette conférence de Mohamed Timera, qui est donc professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Il est également le directeur du laboratoire de recherche URMIS, qui est un laboratoire avec trois tutelles, Paris Diderot, quatre tutelles, le CNRS, l'IRD et la quatrième est
l'Université de Nice.
L'Université de Nice, ah oui, c'est vrai, effectivement, puisque l'unité de recherche est BICIT, Paris 8 et l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Donc, Mohamed est donc un sociologue spécialiste des migrations internationales. Il a différents terrains sur les migrations à partir de l'Afrique, mais aussi en Afrique. Il est également l'un des chercheurs qui livre aujourd'hui une réflexion sur la construction des identités religieuses et ethniques en contexte migratoire. Il est aussi l'un des chercheurs qui, pour moi, qui suis très sensible à cette notion, l'un des chercheurs qui a participé, à mon sens, à mettre en lumière la notion de projet migratoire, et notamment dans son ouvrage sur l'histoire de la migration soninké en France, où il a développé la question et la notion de projet migratoire dans son travail. Donc je suis très heureux de l'accueillir ici. Alors je vais le mettre un peu mal à l'aise, parce que je dois vous faire une confidence, mais si ma mémoire est bonne, en 1993, j'ai écouté pour la première fois une conférence sur les migrations internationales faite par Mohamed, qui allait soutenir sa thèse. Et à l'époque, j'étais étudiant, jeune, je ne vais pas dire ça, parce que sinon tout le monde va croire qu'on a une grande différence d'âge, mais j'étais étudiant, je débutais mes études sur les migrations internationales, donc j'ai entendu Mohamed à l'URMIS en 1993, juste avant que tu soutiennes ta thèse, et je me rappelle très bien, mais te dis, ah, si c'est ça la recherche sur les migrations, alors peut-être que je vais me lancer dans ce sujet-là. Donc, je suis très heureux de le dire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être présent, et donc je laisse la parole à Mohamed.
D'accord, merci William, et aussi merci au Centre Mendes France qui me donne l'opportunité de venir parler de mes travaux et d'en discuter avec vous. Donc comme l'a dit William, j'ai commencé mes recherches sur l'immigration africaine en France. Dans un premier temps, il faut dire que j'ai plus travaillé sur l'aval de ces migrations, c'est-à-dire le processus de sédentarisation, d'inclusion de ces populations ou de ces migrations africaines dans la société française, en ayant toujours une sorte de fil conducteur ou d'axe qui a traversé l'ensemble de ces recherches, c'est la mobilisation du religieux, et en particulier de l'islam africain, dans ces contextes de mobilité et dans les contextes de migration. Et si je refais un peu le parcours, je dois dire que je suis parti, en fait, finalement, d'une approche des migrations à partir du point d'arrivée, pour ensuite remonter vers le point de départ, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à développer des recherches sur, on va dire, les conditions de génération de la migration, les conditions même du départ, et aussi par la suite, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler les espaces intermédiaires, c'est-à-dire comment sur la route des migrations de l'Afrique vers l'Europe, on peut identifier des espaces, des lieux, des moments que certains ont définis comme des espaces de transit, mais qui peut-être n'en sont pas toujours, comment dire, que ne sont pas toujours que des espaces de transit, mais aussi des espaces d'installation et de migration. Donc tout ceci permettant, en tout cas, d'essayer de tenter une reconstruction de la chaîne migratoire dans son ensemble, en partant de ce qu'on pourrait appeler un point de départ vers ce qui peut être considéré immédiatement comme des points d'arrivée, étant entendu qu'un point d'arrivée peut être un point de départ pour un autre endroit. Donc la présentation que je vous propose va essayer de revenir sur des enquêtes qui ont été réalisées au Mali, au Sénégal, au Maroc, et qui interrogent à la fois les projets migratoires et aussi les stratégies et représentations des jeunes en mobilité en Afrique et aussi à partir de l'Afrique. Les idées qui vont être formulées, ou en tout cas défendues dans cette intervention, ont déjà été élaborées et publiées dans un certain nombre d'articles, dont par exemple l'article « Les migrations des jeunes sahéliens, affirmation de soi et émancipation », donc dans la revue « Autre part ». Un autre article qui est intitulé « Aventuriers ou orphelins de la migration internationale, nouveaux et anciens migrants subsahariens au Maroc ». Et enfin aussi un autre article que je pourrais également citer, donc paru dans la revue « Les cahiers d'études africaines » qui s'intitule « La religion en partage, la couleur et l'origine comme frontière ». Les différentes recherches que j'ai menées correspondaient en fait à des contextes politiques et sociaux particuliers. Aussi à des événements tragiques qui ont illustré ou accompagné la construction de cette immigration, en tout cas des jeunes Africains, en question sociale, mais aussi comme un problème social. Déjà, dans les années 90 et au début des années 2000, les pouvoirs publics français, de même que les institutions européennes, vont mettre en avant l'idée de programmes de développement dans les pays d'origine pour endiguer la migration des jeunes. Ce projet donc, était soutenu en partie par plusieurs associations de migrants qui voyaient dans de telles initiatives la possibilité de maintenir les jeunes dans les villages et de construire les bases d'un développement endogène. Et c'est en collaboration avec une fédération d'associations villageoises, donc de migrants de la région de Kaï, donc une région du Mali, qui est aussi la région emblématique des migrations africaines maliennes vers la France. Donc des enquêtes seront menées à Paris et aussi dans une dizaine de villages, ainsi qu'à Bamako, mais également aussi dans la ville de Kaï même, auprès des jeunes principalement, mais aussi des autres composantes de la société locale, enfin des différents acteurs de la chaîne migratoire entre le village, les villes africaines et la France. Selon une démarche méthodologique qui va allier des réunions solennelles dans les villages, sur la grande place d'ailleurs, avec les autorités du village, les anciens et tout, mais en même temps aussi des rencontres plus conviviales avec les jeunes dans leur, dans leur propre espace, dans leur lieu de regroupement, j'ai pu en tout cas approcher la réalité de la migration de différents points de vue et tenter de mieux cerner les aspirations de ces jeunes. Il faut dire que le programme porté par les pouvoirs publics et par les associations reposait sur un postulat explicite qui est que la migration découle du sous-développement, et que pour y mettre fin, il faut développer les villages. Et cela passe concrètement par la mise en œuvre de projets de développement associant et occupant les jeunes. Dans les réunions tenues dans ces villages maliens, les autorités du village adhéraient fortement à cette optique et réaffirmaient dans les réunions leur statut d'agriculteur. En parlant pour les jeunes, et ils les associaient également aussi à ce projet. leur demande, c'était qu'il fallait moderniser l'agriculture, transformer ses équipements et leur permettre, en tout cas, de développer cette activité. Par contre, les rencontres que j'avais en aparté avec les jeunes vont révéler un autre discours en contradiction plus ou moins flagrante avec le discours unanime et public qui était tenu par leurs aînés et aussi par les migrants. Et très clairement, de façon quasi unanime, les jeunes affirmaient leur désir et projet de migration, principalement vers la France, puis ils avançaient aussi d'autres destinations, l'Europe, les USA, l'Afrique du Sud ou d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, à l'époque le Gabon. Le désir en fait de migration allait parfois jusqu'au rejet des projets de développement qui leur étaient proposés. Ils me disaient clairement, tu sais, Mohamed, nous sommes déjà fatigués par les travaux sur les champs collectifs familiaux. Avec les projets, on ne s'en sortira pas. Ce que nous voulons, c'est partir parce qu'il n'y a rien ici, c'est la misère. Donc c'était un peu le discours récurrent qui était tenu par ces jeunes qui dressaient un tableau noir qui ne correspondait pas toujours à la réalité. Parce que ce qui caractérisait une bonne partie de ces régions d'émigration, c'est l'existence d'une rente migratoire ancienne versée par les migrants qui assurait aux familles une certaine sécurité financière et aussi sociale. La récurrence de ce discours dans les villages va me permettre progressivement d'appréhender la situation et de mieux comprendre le propos des jeunes. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ici, il n'y a rien, ici, c'est la misère. En vérité, dans ce « il n'y a rien ici », ce que j'ai entendu et compris, c'est que c'est « il n'y a rien qui m'appartienne en propre ». Il y a quelque chose qui relève d'une propriété collective dont je peux avoir une sorte d'usufruit, dont je peux bénéficier, mais il n'y a rien pour moi, même si donc, il y a cette prise en charge familiale et solidaire qui préserve de la misère individuelle. Donc le désir de migration s'ancrait profondément dans la recherche de ce que je pourrais appeler un espace privatif, dans l'accès à des ressources privatives qui pouvaient leur assurer une certaine autonomie et aussi leur permettre de faire comme les migrants eux-mêmes, c'est-à-dire de donner et contribuer au développement du village et de la famille. Il disait clairement, nous aussi, nous voulons partir, trouver, avoir quelque chose pour nous et puis aider la famille. Ce n'était pas dans une logique de rupture, mais c'est dans une logique d'émancipation individuelle, d'autonomie individuelle, tout en s'inscrivant dans une solidarité avec les villages et la famille. Ce qui se révélait clairement à nous, c'était donc cette dimension individuelle de la migration, cette dimension d'autonomie, d'émancipation, que cacher, on va dire, une sorte d'éthos partagé qui mettait en avant la figure du migrant au service de la collectivité, du migrant envoyé par les siens, qui œuvrait pour le bénéfice des siens et pour la collectivité, qui correspond bien à ce qu'un sociologue de l'immigration, Abdelmalek Sayad, définit clairement dans ce qu'il appelle les trois âges de l'immigration algérienne, où il précise un premier âge qui caractérise la migration comme une migration qui est liée très fortement au pays d'origine. C'est une migration d'envoyés, c'est une migration de missionnaires, si je puis dire, dont la fonction et dont la mission et de permettre à la collectivité et à la communauté qu'ils ont quittée de continuer à se reproduire dans les conditions qui étaient les siennes. Donc dans cette vision-là, le migrant presque n'existe pas pour son projet individuel, il existe pour son service à la communauté et pour, comment dire, le bénéfice de la communauté. Mais en fait, finalement, même dans cet âge que définit Sayad, dans ce premier âge, l'individualisation est déjà bien présente. C'est-à-dire, même quand le migrant se présente comme quelqu'un au bénéfice, travaillant pour le bénéfice de sa collectivité, c'est quelqu'un qui travaille aussi pour son propre bénéfice personnel. Mais sauf que cette dimension-là, elle est moins mise en avant, elle est moins présentée, elle est plus occultée. Parfois même, on va dire qu'elle est refoulée dans les discours des migrants. Et quelque part, je dirais aussi que nous, les chercheurs, on a été un peu aveugles à cette dimension de la migration, la présentant comme très fortement liée à cette perspective de service du groupe. Donc, pour ces jeunes, il fallait partir pour être, partir aussi pour signifier socialement, en fait, quelque chose. Et c'est à travers la migration qu'ils vont chercher l'accès à des biens, à des revenus propres, personnels. C'est même aussi à travers cette migration qu'ils vont chercher à contourner le système communautaire de solidarité familiale. Solidarité familiale unilatérale et perpétuelle, si on peut dire, même si c'est à leur bénéfice, car quelque part ce système de solidarité les infantilise et aussi les minorise. Ainsi donc, paradoxalement, si les solidarités familiales et communautaires permettent de conjurer des situations de misère sociale et matérielle aiguë, elles rendent en fait possible d'autres souffrances qui sont tout aussi indicibles par la violence qu'elles font subir à leurs jeunes bénéficiaires. Et donc, loin d'une vision simplement idyllique, la solidarité s'avère avoir un prix très lourd, et constituer aussi un lourd tribut à payer pour ceux qui en bénéficient. Et son envers, donc l'envers de la solidarité, c'est bien souvent le mépris qui peut être ressenti et une minorisation sociale oppressante subie par les jeunes. Donc on le voit, c'est bien au cœur des logiques des sociétés de départ que se trouvaient les mécanismes génératifs de la migration. Et dans une très large mesure aussi, il me semblait que c'était par rapport à ces logiques que le désir et le projet migratoire prenaient sens. Bien entendu, il n'y a pas que ce qui se passe dans la société d'origine, dans la société de départ, encore faudrait-il que dans la société d'arrivée, il y ait une demande et un besoin pour que les migrants se dirigent vers ces sociétés. Enfin, je veux dire, pour aller vite, si on prend un exemple très simple, quand on voit comment la France a été une région de destination pour les migrations africaines, qui à l'époque, si je puis dire, sautait l'Espagne pour aller en France, parce qu'il n'y avait pas une demande. Et quand les conditions ont changé en fait dans ces pays, les migrations ont commencé aussi à se développer vers cette direction-là. Donc il y a à la fois les conditions, on va dire, de départ, mais aussi le contexte des sociétés d'arrivée qui explique ces dynamiques, qui explique ces flux. Ce détour par les migrations en Afrique me semble important pour aborder la question des migrations vers des zones intermédiaires comme le Maroc. car quelque part, ce qui par la suite a été très médiatisé dans les migrations subsahariennes au Maroc, c'était déjà révélé dans les migrations africaines, soit directement vers l'Europe, soit au sein de l'espace africain. Et donc là, je renvoie à un événement qui a eu lieu, je ne sais plus, c'est dans les années 2000, où deux jeunes Guinéens avaient tenté la migration vers la France en se réfugiant dans le train d'atterrissage d'un avion et qui était arrivé mort, je ne sais plus c'était à quel aéroport, en tout cas à Paris. Et ces jeunes avaient pris soin de rédiger une sorte de lettre testament où ils annonçaient à la fois leur désir de partir, la condition qui était la leur, et ce geste qui était un geste extrême. Donc on voit bien que ensuite, quand après seront médiatisés ces passages par les pirogues, on est encore dans cette logique du geste et de l'acte extrême pour émigrer. Question qui, qui émerge tout de suite, c'est comment peuvent-ils faire ça? Surtout quand on sait, comme je l'ai dit, que ces jeunes n'étaient pas dans des situations de misère extrême, individuelle et tout. Ils étaient pris en charge dans leur famille, ces jeunes qui avaient voyagé dans le train d'atterrissage d'un avion, étaient des lycéens qui vivaient dans leur famille, mais qui ont quand même eu cette démarche-là. Et quand j'ai commencé les recherches sur le Maroc, la question qui m'a préoccupé, parce que aussi j'étais peut-être prisonnier des médias, c'est cette tentative extrême, le fait de prendre la pirogue avec tous les risques, de défier la mort pour essayer de partir en Europe. Et j'allais donc sur ce terrain de recherche avec cette interrogation qui me taraudait fortement et je dirais même qui me terrorisait quelque part. J'avais un rapport assez troublé par rapport à cette démarche-là. Je ne sais pas si je suis parvenu à trouver ou apporter une réponse à cette interrogation, mais j'ai trouvé en tout cas quelques pistes qui me permettent de satisfaire et d'apaiser un peu cette interrogation. Je pense qu'on pourra y revenir. Donc, ces recherches menées au Maroc prolongent et élargissent ces problématiques déjà abordées dans le contexte malien. Et à l'époque, le contexte est celui de la construction des frontières européennes, de l'externalisation des frontières, avec comme conséquence la construction de ce qu'on appelait des espaces de transit, des pays qui vont se trouver assignés à la fonction de protection des frontières européennes comme le Maroc. Et il y a aussi plusieurs événements tragiques, des naufrages d'embarcations qui donnent à cette migration un visage particulier. C'est celui de nouveaux boat people africains qui, à la différence des boat people du secteur asiatique, ne rencontrait pas toujours la même sympathie au niveau de l'opinion. Donc, je partais sur le terrain avec comme interrogation les périls liés à cette migration, le caractère héroïque ou suicidaire de cette entreprise. À l'époque, je dirais que le contexte n'était pas sans danger pour moi, sénégalais, qui voulait faire une recherche sur ces questions au Maroc. La situation était assez tendue. Il y avait des rafles en fait périodiques dans les quartiers qui regroupaient les populations subsahariennes, donc dans je ne peux pas dire la banlieue, mais bon, comme la banlieue se globalise, dans les banlieues de Rabat, vers Takhdoum, où ces populations étaient massivement, étaient, comment dire, fortement présentes, où il y avait ces descentes de la police. Et donc, pour éviter ces situations, donc j'ai décidé de commencer mon terrain à Fès. Fès qui a la particularité d'être une ville qui constitue un lieu de pèlerinage des migrants sénégalais parce que c'est dans la ville de Fès qu'a été enterré le fondateur d'une confrérie religieuse musulmane appelée la Tijania. Une confrérie qui a beaucoup essaimé en Afrique de l'Ouest, qui a beaucoup de disciples au Sénégal. Il y a beaucoup de rameaux de cette confrérie religieuse. Et pour eux, Fès, à Limoges de la Mecque pour l'ensemble des musulmans, est une ville où repose le saint fondateur de leur confrérie. Donc il y a toute une tradition de voyage, de pèlerinage. Et donc j'ai décidé de partir à Fès et de me présenter au besoin comme un pèlerin sénégalais qui allait faire le pèlerinage à Fès. Ça faisait une bonne couverture. Et donc, quand j'arrive dans cette ville de Fès, je découvre assez vite une grande familiarité de Fès avec les Sénégalais. Je ne me sentais pas vraiment en terre étrangère, entre guillemets. J'ai eu même la surprise de rencontrer dans le souk de Fès une jeune fille d'une dizaine d'années qui me parlait couramment en wolof et qui me demandait qu'est-ce que je voulais acheter, si je voulais des djellabas, des babouches et tout. Donc tout ça pour montrer cette familiarité que je vais ensuite remarquer en discutant avec les commerçants, en allant aussi dans la Zawiya, donc prier sur le mausolée du fondateur de la confrérie. La maîtrise du Wolof, cette langue de communication au Sénégal, montrait bien en fait cette familiarité. Petit à petit, je découvre aussi les implantations sénégalaises dans la ville de Fès. Et j'ai même l'occasion d'habiter dans une maison qui s'appelle Dar Sénégali, donc la maison du Sénégal, qui est une bâtisse qui a été mise à la disposition de la communauté sénégalaise, des étudiants et des pèlerins par le royaume. Et la maison abritait donc à l'époque des Sénégalais, presque tous mariés à des Marocaines, qui vivaient là depuis des années, qui avaient des enfants grands d'une vingtaine d'années, issus en fait de ces couples mixtes sénégalo-mauritaniens. Et donc c'est à partir de cette maison-là que je vais construire toute une relation avec la migration sénégalaise. La maison de Fès est une sorte de lieu de passage, en tout cas un axe important dans les migrations sénégalaises, parce que d'abord pour ceux qui viennent dans le pèlerinage, pour les commerçants qui viennent chercher des marchandises, mais aussi pour les, ce qu'on appelait les aventuriers qui étaient refoulés en Algérie et qui revenaient sur le territoire marocain. Donc sur leur route pour aller vers Rabat ou Casablanca, ils passaient par Fès, donc c'est Oujda, Taza, je pense, et puis Fès. Et donc, ils utilisaient cette maison du Sénégal comme un lieu refuge où ils étaient accueillis par des Sénégalais qui étaient en lien aussi, en connexion avec leurs passeurs qui se trouvaient à Rabat, qui se trouvaient à Casablanca, qui organisaient ensuite leur exfiltration, si on peut dire, vers Rabat, vers Casa, et d'autres qui rentraient vers le nord, à Tanger, pour rejoindre les forêts et les campements des migrants, ou même qui descendaient vers le sud pour reprendre des bateaux. Et ce que donc ce terrain à Fès va m'offrir comme possibilité, c'est de me raccrocher à des groupes de jeunes migrants sénégalais que je vais accompagner dans leur pérégrination, c'est-à-dire je vais les suivre à Rabat. Donc avec eux, je pars à Rabat, et c'est de voir comment ils trouvent à s'installer dans ces espaces. Je les suivrai aussi au nord. Donc j'ai plus une démarche, on va dire, enfin j'ai appelé ça une démarche itinérante, une méthodologie de recherche itinérante. Je suis les migrants, je me laisse porter, par eux, et c'est par cette attitude-là que j'arrive à intégrer de façon, comment dire, plus ou moins profonde leur univers, leur monde, en ayant d'ailleurs une attitude un peu, comment dire, très discrète sur ma position. Je ne disais pas que j'étais un chercheur qui faisait une enquête sur les migrations, parce que d'abord, je n'avais pas de permis de recherche, je devais me couvrir jusqu'à un certain point. Et donc, je me dévoilais auprès de personnes avec qui un rapport de confiance s'était établi. Mais ils pensaient que je venais du Sénégal. J'étais un Sénégalais, donc je venais du Sénégal. Ce n'est pas forcément que je venais, en fait, de la France, quoi. Certains même pensaient que moi aussi, je cherchais à partir en Europe, puisqu'on me proposera même aussi des connexions pour entrer en Espagne ou en Europe. Ce que ce terrain me révèle assez nettement, c'est que si j'étais au départ parti avec en tête l'idée d'une migration qui est une migration de transit, une migration de passage, j'ai découvert quand même une présence ancienne qui n'était pas forcément lié à la migration vers l'Europe et qui n'avait pas à voir avec la migration vers l'Europe. Et je crois que ça, ce sont les conditions d'accès au terrain de recherche, d'être dans ces familles sénégalaises, binationales, maroco-sénégalaises, qui étaient là, qui n'ont jamais pensé partir, qui va m'amener à revoir en fait ma vision de la présence subsaharienne au Maroc. Quelque part, il fallait sortir de cette idée migration-transit. On est dans une migration d'installation qui est, comment dire, importante. Je dirais même, peut-être pour aller plus loin, que quelque part, pour qu'une migration de transit puisse être possible, il faut qu'il y ait des fronts pionniers bien installés qui puissent jouer justement ce rôle, ce rôle de passeur pour ces nouveaux arrivants. Et je vais le voir concrètement à travers les rapports que ces présences anciennes vont tisser avec les nouveaux arrivants. Et c'est intéressant aussi de voir comment ces différentes vagues migratoires vont se sédimenter, vont se rencontrer, vont entrer même en contradiction, en opposition les unes avec les autres. Et ça a cassé l'image, uniforme d'une immigration subsaharienne au Maroc. Il y avait une multiplicité de projet migratoire, de d'historicité, de temporalité des migrations, avec un jeu de représentation d'ailleurs réciproque. Les anciennement installés, les établis entre guillemets, qui avaient sur les nouveaux arrivants un regard assez stigmatisant. Ils appelaient les aventuriers, que ces aventuriers étaient responsables de la dépréciation de l'image des Sénégalais sur le royaume, que depuis qu'ils sont là, on ne vaut plus rien dans ce pays. Ils donnent une mauvaise image des Sénégalais. Et ces jeunes, qui parfois étaient aussi dans cette logique de passage, qui découvraient une immigration anciennement installée et qui se demandaient mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là, qui avaient une vision eux aussi assez négative de cette présence ancienne qui, il faut le dire, surtout dans les quartiers populaires, était le fait de, comment dire, de catégories précaires. Les gens n'ont pas de titre de séjour, c'est des titres un an renouvelables tous les ans, même s'ils avaient des enfants depuis 20 ans qui n'avaient jamais quitté le Maroc. Donc c'était vraiment une situation marquée par cette précarité. Et donc il y avait un jeu de perception des uns et des autres où la stigmatisation était assez présente. Il faut dire que les différentes catégories ne sont pas aussi des catégories figées, parce que j'ai découvert par exemple des étudiants qui, au bout de leur parcours, décidaient un jour, bon, je vais tenter le passage en Europe. Donc, qui, d'étudiants, devenaient ce qu'on pourrait dire des aventuriers. Ou des gens qui étaient installés depuis très longtemps au Maroc, mariés même à des Marocaines, et qui ensuite passaient en Espagne et faisaient même venir auprès d'eux leur épouse marocaine. On voyait bien comment il y avait une certaine circulation entre ces différentes catégories. Il y avait une subjectivité particulière qui me semblait caractériser ces migrants en recherche de passage en Europe. Et cette subjectivité, je dirais qu'elle se construisait largement à partir de ce que j'ai essayé de définir comme par le terme une socialisation par la route. C'est-à-dire comment le voyage, les épreuves, à travers le voyage migratoire produisait une socialisation particulière chez ces jeunes, ou parfois même moins jeunes, qui s'exprimait par une attitude de rejet du pays d'accueil, voire de son dénigrement permanent. J'étais étonné par la facilité et la récurrence par laquelle ils arrivaient à dire du mal du Maroc. Le Maroc n'est pas bien, il n'y a rien dans ce pays. Il y avait comme une sorte de refus d'être là, le choix d'une sorte de posture d'absence. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est complètement tourné en fait vers l'extérieur. Et un des lieux que j'ai fréquenté beaucoup, parce que aussi c'était un lieu que fréquentaient beaucoup les subsahariens, c'était les cybercafés. C'est là, en connexion avec le monde, soit celui qu'ils avaient quitté ou celui vers lequel ils allaient. Et ça a été aussi des moments. J'ai même développé mon expertise pour les nouvelles technologies au Maroc auprès de ces migrants qui m'ont appris à utiliser beaucoup de ces, ces réseaux, de ces sites dont ils étaient eux-mêmes très familiers, avec des tentatives plus ou moins réussies. Mais des fois, un exemple suffit pour faire rêver tout le monde. Que quelqu'un trouve une copine ou une épouse par mythique, ça suffit pour galvaniser et renforcer l'assiduité de beaucoup qui, tous les soirs, allaient au cyber dans cette sorte de recherche et de chasse du contact. Vous ne dites pas que j'ai encore le temps. Une autre dimension qui me semblait importante dans cette subjectivité particulière de ces migrants, C'est bien en fait cette, comme je disais, cette situation d'attente, cette situation en fait de, comment dire, d'absence par rapport au pays dans lequel il se trouvait, avec beaucoup de, comment dire, de répétitions de situations. Qui faisait que des fois, quand je discutais avec les migrants, j'avais l'impression qu'ils me récitaient une même chanson, tellement les histoires se ressemblaient. Ils étaient tous passés par les mêmes étapes, ils avaient été arnaqués de la même manière. C'est devenu des sortes de classiques. Ce qui faisait que quand on parlait en fait d'errance pour ces migrations, je me disais, oui, on peut parler d'errance, mais en même temps, le parcours est extrêmement balisé. Il passe vraiment par les mêmes étapes, il tombe sur les mêmes individus qui les, comment dire, qui les grugent en fait de la même manière, sauf que le dernier grugé ne savait pas comment le premier avait été grugé, et ça marche. Ça marche toujours avec, avec les nouveaux. Quoi. Donc il y a bien une errance, mais peut-être une errance plus subjective que géographique. C'est surtout que le parcours est ignoré par, par les migrants. Et cette attitude vis-à-vis, comment dire, des... du Maroc, cette attitude d'absence, en tout cas de mise à distance, comment dire, il m'a fallu du temps pour comment dire, le relativiser. C'est-à-dire, autant le discours des migrants est comment dire, systématiquement négatif sur le Maroc, autant une observation attentive permet de comprendre l'importance des ancrages et des relations qu'ils ont tissées au sein de cette société. Et des fois, j'ai l'impression même qu'ils n'avaient pas envie de valoriser ces liens, qu'ils étaient même dans une sorte de mise à distance des Marocains qui les approchaient ou des Marocains qui voulaient développer des relations avec eux, comme si ça les rattachait trop à ce pays-là, alors qu'ils étaient en fait dans une logique du passage. Donc derrière le discours, et il me semble que c'est important de le souligner, parce que je le verrai aussi sur d'autres aspects, derrière ce discours négatif sur le Maroc et sur les Marocains, il y avait toute une réalité qui était faite de solidarité, d'échange, comment dire, de réciprocité avec la population locale. Mais j'ai l'impression que cette dimension-là, peut-être qu'elle est moins, surtout à l'époque, elle était moins valorisée, parce que le Maroc ne se définissait pas, et peut-être pas toujours encore, comme un pays d'immigration, avec une politique d'immigration, prenant en compte la dimension de l'intégration des migrants. Un pays d'immigration avec une politique d'intégration, souvent, a besoin de ces modèles de migrants bien intégrés, qui va présenter et tout. Et j'étais surpris dernièrement, il y a un Sénégalais qui a été tué à Tanger. Il y a toute une émission qui est passée à la télévision marocaine et il présente un Sénégalais, ancien footballeur, installé à Tanger, qui a ouvert un restaurant, qui parle la langue, le Daraja, mais de Tanger avec le style tangérois. Et c'était quelque chose qui était apprécié, qui était valorisé par... c'était le signe, en fait, d'une... comment dire, d'une implantation, c'est le signe en fait d'une intégration. Et je me dis quelque part, ces signes ou ces formes d'acclimatation ou d'adaptation très forte ou d'intégration, pour aller vite et prendre un terme certes très controversé, n'ont de sens que par rapport à une politique d'intégration et par rapport à une société ou un État qui dit que oui, je reçois des migrants et je veux qu'ils s'intègrent, je veux faire tri même entre ceux qui sont bons, ceux qui s'intègrent et ceux qui ne s'intègrent pas. Et j'ai besoin de modèles à afficher, à présenter comme des modèles de gens bien intégrés. Une autre dimension, je pense, qui me semblait aussi intéressante dans ces migrations au Maroc, c'est ce que j'ai appelé cette figure du self-made migrant, pour parler de ces migrants qui expérimentent d'abord des voies qui sont difficiles, des voies qui sont dangereuses, et qui se caractérisent, à la différence des migrations que j'avais l'habitude d'étudier, comme les migrations de la vallée du fleuve Sénégal, les migrations Soninké, par l'absence de ressources migratoires et d'une maîtrise très forte des réseaux d'immigration. Et j'étais d'ailleurs surpris, je ne voyais pas de Soninké dans ces quartiers populaires, jusqu'au jour où je tombe sur quelqu'un qui s'avère ensuite être un Soninké. Avant, il ne se présentait pas comme tel, mais après échange, et je lui dis, mais c'est étonnant, pourquoi c'est la première fois que je tombe sur un Soninké, comment se fait-il, pourquoi il n'y a pas de Soninké? Il me dit, non, tu sais, les Soninké, eux, quand ils vont en France avec un visa, hein, c'est pas... Donc, vous voyez bien, en fait, comment on était en face de, comment dire, de catégories, je dirais, nouvelles dans la migration. C'est un peu ce que j'ai appelé les orphelins de la migration internationale, qui, à la différence de migrations plus anciennes, plus rodées, plus routinisées, se lancer en fait dans cette entreprise avec moins de ressources, moins d'éléments. Et d'ailleurs, les Soninkés que je vais trouver dans ces zones-là avaient une caractéristique, c'est qu'ils étaient en rupture avec leur propre groupe, avec leur propre communauté, c'est-à-dire des jeunes déviants, entre guillemets, que les parents ont refusé de prendre en charge, d'aider dans leur parcours migratoire, voire qui ont été refoulés, trafic de drogue et tout, et qui ensuite essayaient de repartir, mais par leur propre force. C'est-à-dire qu'ils ne comptaient que sur eux-mêmes. L'apport de la communauté était beaucoup plus, était beaucoup moins présente dans cette migration-là, où les gens, finalement, notamment pour ces Soninkés, évoluaient en fait hors de l'espace moral. Un autre aspect que je souhaitais explorer aussi dans cette recherche, comme je l'ai dit, porte sur les relations interethniques, interculturelles, entre les migrants subsahariens et les Marocains. C'est vrai que ce sont des catégories problématiques, que ça veut dire subsaharien, que ça veut dire marocain en général, parce que l'observation empirique va surtout révéler une diversité de figures. Mais néanmoins, je pense que cette diversité n'exclut pas des constructions globalisantes. On va dire les subsahariens, c'est un terme qui est devenu très médiatisé, même au Maroc. Comme je dis, les subsahariens ont... s'adresse à un groupe qui est pensé comme, comme uniforme, mais en tout cas qui permet de construire une frontière entre le nous et les autres, et dont vont se saisir les politiques, les médias, les ONG et aussi les chercheurs qui vont contribuer à peut-être réifier ou durcir ces catégories. Et là, je vais m'intéresser, si je puis dire, à deux expériences. Une première qui est l'expérience d'être noir ou africain au Maroc, ou subsaharien, les désignations sont diverses. Et une deuxième qui est l'expérience d'être musulman au Maroc, avec ce que ça comporte comme science, musulman de la Tijania, musulman ayant une expertise maraboutique, c'est-à-dire ces marabouts qui officient sur le royaume. Là encore, il y a un problème méthodologique réel à isoler ces expériences, car le fait d'être noir ou africain, évidemment, ça s'imbrique à d'autres statuts, le fait d'être étranger, d'être précaire, d'être une femme, d'être un candidat à l'immigration, ou d'être perçu comme un candidat à l'immigration. Mais je vais quand même essayer de rendre compte de la façon dont ces deux expériences sont vécues et sont verbalisées par mes enquêtés. La première expérience, en tout cas si la première expérience, celle d'être noir, semble relever principalement d'un statut stigmatisé et plutôt être source de préjudices dans le discours des enquêtés, l'expérience d'être musulman, au contraire, est plus ambivalente et peut-être source de gratification symbolique, même si également elle peut entraîner une position minoritaire au sein de l'islam, donc une sorte de clivage au sein même de la religion. Concernant l'expérience d'être noir ou africain au Maroc, ce qui m'a surpris, c'est l'évocation insistante, récurrente, presque permanente, du mépris pour la peau noire et du sentiment de supériorité des Marocains sur les subsahariens. Donc quelque chose qui revenait de façon très systématique dans le discours des subsahariens, quelle que soit la nationalité, quelle que soit d'ailleurs leur religion. Il y a toujours cette insistance qui était très très forte, avec parfois des propos très forts de certains faisant état de ce qu'ils appellent leur racisme en fait des Marocains. Et cette dénonciation du racisme des Marocains et parfois aussi de ce qu'ils appelaient leur esclavagisme, c'est-à-dire leur idée que tous les Noirs sont des esclaves ou doivent être promus à l'esclavage, s'accompagnait curieusement aussi d'un certain mépris vis-à-vis de cette population et de formes de dénigrement de leur part vis-à-vis en fait des Marocains. Et il me semblait que l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis des Marocains rappelait une attitude qui m'était plus familière, en tout cas que je connaissais plus, qui était celle des Sénégalais vis-à-vis des Moors de la Mauritanie. Et le terme qui est utilisé pour désigner ces Moors, les Nars, donc, c'est le même terme qui sera aussi utilisé pour désigner les populations marocaines et les populations d'ailleurs en général, parce qu'après on va décliner ça, les Nars Ghanar, donc les Nars de la Mauritanie, les Nars du Maroc, les Nars du Liban, les Nars de l'Irak, voire de la Turquie, qui ne sont pas des Nars. Mais bon, c'est cette catégorisation qui va être... et cette catégorisation du Mour, elle est assez aussi péjorative. C'est-à-dire, il y a toute une vision négative qui dénonce à la fois le racisme et ce que souvent on appelle aussi l'esclavagisme de ces populations. Et c'est une question qui pour moi va être une sorte d'énigme, d'interrogation, parce que en tout cas travaillant sur l'immigration africaine en France, j'avais moins perçu l'importance de la problématique du racisme dans le discours, en tout cas sa verbalisation dans le discours des migrants. Non pas que les Africains nient l'existence de racisme ou de pratiques racistes dans la société française, mais cette verbalisation et cette permanence à dénoncer le racisme dont ils pouvaient être victimes au Maroc avait quelque chose de surprenant. Et même l'impression que ce racisme était, d'une certaine manière, illégitimé. En tout cas, il y avait quelque chose qui les révoltait profondément dans ces expressions et dans ces manifestations. C'est vrai que, l'expérience d'être noir n'est pas vécu de la même manière, n'est pas verbalisé de la même manière dans les deux sociétés. Au Maroc, il y avait encore des désignations, notamment le terme de Asie, qui était souvent utilisé pour parler en fait des Noirs, terme qui était un terme péjoratif. Qui renvoie à la fois à la couleur noire, qui renvoie aussi à l'esclavage, et dont les subsahariens pouvaient être victimes. Ils pouvaient se faire traiter d'Asie, en fait, dans les interactions quotidiennes. Il y avait d'autres termes, moi, que j'avais découvert, notamment à Fès, boîte d'ara, qui semble-t-il veut dire cafard, ou en tout cas c'est un insecte. Donc il y avait ce recours à des termes qui désignent la couleur noire, qui était utilisé parfois sous le mode mineur de la plaisanterie, moins souvent de l'offense et de l'insulte, dont les migrants eux-mêmes avaient une claire conscience. Et qui renforçait cette impression, en tout cas ce sentiment qu'ils avaient et qu'ils dénonçaient très fortement du racisme en vigueur au sein de cette société. Et il me semble qu'il y a des liens entre l'expérience d'être noir et l'expérience religieuse, l'expérience d'être musulman. C'est une sorte en fait d'hypothèse que j'avance comme ça, comme si la disqualification comme noir avait en même temps aussi comme conséquence de disqualifier leur statut. Leur statut religieux, ou en tout cas de le minorer. Même si, comme je dis, ça fonctionne à l'ambivalence. Ça permet aussi de les sauver. D'être musulman les sort, en fait, d'une catégorie plus stigmatisée, qui est, en fait, celle qui renvoie à la couleur, à la négritude de façon générale. Et en m'intéressant à cette question de l'islam dans les relations et dans le parcours migratoire, là aussi un autre étonnement, ce qui ressortait très fortement chez les Sénégalais, c'est un peu ce qu'ils définissaient comme l'irreligiosité des Marocains, c'est-à-dire une sorte de déni d'islam. Dire, moi j'arrivais un peu avec l'idée que c'est des musulmans, que ça va permettre la proximité de façon injustifiée d'ailleurs, c'est pas parce que les Italiens étaient des catholiques qu'ils étaient bien vus dans une société française ou les Polonais par exemple. Les frontières peuvent passer par d'autres endroits. Mais en tout cas, là, ce qu'il y a eu, c'est en fait une expression très forte, une dénonciation assez importante de religiosité musulmane, de l'irreligiosité en fait des Marocains. Et il s'est avéré au fil donc des observations que finalement, au sein même de l'islam, il y avait aussi une frontière. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer dans le titre de l'article, la religion en partage, la couleur et l'origine comme frontière. Mais c'est qu'au sein de l'islam même, il y avait une frontière qui définissait qui étaient les bons musulmans et qui étaient les mauvais musulmans. Les Sénégalais, peut-être d'autres subsahariens musulmans, se donnant un certain plaisir à dénigrer les Marocains comme étant de mauvais musulmans. Et ce déni, en fait, semble répondre en partie à leur propre disqualification ou minoration au sein de l'islam. Et souvent, certains découvraient avec une certaine, étaient assez vexés finalement quand les Marocains s'enthousiasmaient du fait qu'ils étaient des musulmans. Découvraient qu'ils étaient musulmans alors qu'ils étaient dans la logique qu'ils sont musulmans depuis les temps immémoriaux. Donc comment se faisait-il que des Marocains puissent s'étonner qu'on soit en fait des musulmans? Quelque part, ça questionnait la profondeur de leur islamisation. Et cet enthousiasme des Marocains n'était pas toujours perçu ou analysé tout à fait gratifiant. Et le discours donc dominant chez les Sénégalais, c'est donc que les Marocains sont de mauvais musulmans, qu'ils étayaient par des choses comme des transgressions des prescriptions religieuses, mais toutes choses qui existent chez les Sénégalais. Hein. Ils peuvent boire de l'alcool, ils peuvent manger du porc, avoir des relations. Mais en fait, ce qu'ils reprochaient aux Marocains n'était pas absent de leur propre pratique. Donc on n'est pas... En tout cas, moi, je le vois comme ça. On est vraiment dans un jeu de représentation et de positionnement stratégique. On avait comme l'impression qu'ils avaient intérêt à dénigrer l'islam des Marocains pour se valoriser et pour, en tout cas, avoir une place plus confortable dans la confrontation et dans la relation qu'il tissait avec ces populations-là. D'une certaine manière, la relation qu'ils avaient au sein de cette grande entité qu'était l'islam était une relation asymétrique. En tant que musulmans, ça leur ouvrait des portes au sein de la société marocaine. Le fait d'être musulman leur permettait d'accéder à des formes de solidarité, à une certaine reconnaissance, à une proximité avec les Marocains. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience. Personnellement, moi-même, me définissant comme musulman, déclinant mon prénom, en fait, qui est celui du prophète, tout cela pouvait faciliter au niveau des interactions quotidiennes un certain nombre de choses. Et eux-mêmes en jouaient. C'est-à-dire, ils mettaient en avant cette appartenance musulmane pour tisser une relation stratégique entre les Sénégalais et les Marocains. Mais en même temps, en interne, ils avaient un discours très négatif, un discours de dénigrement sur l'islamité des Marocains. Donc en interne, il construisait une frontière, mais en externe, il développait plutôt des passerelles avec cette population-là. Et ce qu'il mettait en avant, c'est que pour eux, l'islam est sur leur langue, c'est une culture, c'est leur histoire, d'une certaine manière. Et ce qu'ils valorisaient, eux, de leur côté, c'est que l'islam, c'est dans le cœur. C'est en fait la foi. Donc ils opposaient l'islam des autres que toute leur histoire, toute leur culture, comment dire, dans toute leur histoire et toute leur culture, faisaient une sorte de patrimoine. Ça fait partie du... On est arabe, on est musulman, c'est, comment dire, les frontières sont difficiles à fixer. Ils essaient donc de briser ça en apportant, non pas le fait qu'eux, ils avaient, comment dire, une langue, une culture qui les rapprochait de l'islam, ce qu'ils n'avaient pas. Donc ils apportaient autre chose, c'est la foi sincère. Et la pureté, comment dire, du cœur dans le rapport à l'islam. Donc cette attitude de dénigrement des musulmans marocains faisait écho à leur propre délégitimation religieuse. Et donc, c'est à partir de l'islam, dans une sorte de surenchère, qu'ils vont essayer de construire une différence avec les Marocains pour se préserver de formes de mépris ou essayer de le retourner. Mais comme je l'ai dit, en mobilisant aussi opportunément l'islam comme ressource qui leur servait, qui était stratégique, et puis beaucoup font part de dans leur expérience, hein, de comment le fait d'être musulman a joué un rôle. Ça allait même plus loin. Je voyais bien comment d'autres populations africaines qui n'étaient pas musulmanes se présentaient comme musulmanes. Par exemple, quand elles demandaient la charité, c'est les termes de, comment dire, musulmans, « fissabilillahi » qui était... mise en avant. Donc, on se présentait comme musulman pour pouvoir aussi accéder à ces ressources qui étaient celles de la compassion, celles, en fait, de la solidarité religieuse. Combien ? Ok, c'est parfait. Donc, dans cette relation entre Marocains et Sénégalais, donc dans ces contextes de migration, de transit, mais aussi d'installation, vous voyez bien, l'islam exprime un partage dans les deux sens du terme. Donc, partage en tant que passerelle, mais aussi partage en tant que, frontière au sein de ce groupe. Et les Marocains eux-mêmes, comme je l'ai dit, dans une démarche similaire, vont vers les Sénégalais, en tout cas vers ces populations, parce qu'elles sont perçues comme en fait des musulmans. Donc c'est bien cette idée que j'ai dit, que le fait d'être musulman donne un ticket d'entrée, d'une certaine manière. Mais c'est un ticket d'entrée dans une maison qui a un propriétaire et dans laquelle, en fait, on est un invité, une sorte d'hôte. Et c'est ce rapport-là, justement, qui est au cœur, je pense, de ces relations interethniques au sein de cette dimension, de cette grande, entité qu'est l'islam. Et dans ce clivage, la religiosité des Africains passait aussi par quelque chose d'assez singulier, qui est l'expertise magique. Une des catégories, en tout cas, anciennement installées au Maroc et circulant assez fortement au Maroc, c'est celle des marabouts africains, des marabouts sénégalais, qui viennent, qui ont une clientèle marocaine, qui officient auprès de ces Marocains. J'en ai vu beaucoup. Certains, c'est même des Marocains qui payent leurs billets, qui les amènent, qui les installent dans un studio où ils reçoivent une clientèle. Et parmi mes enquêtés dans la maison du Sénégal à Fès, certains étaient eux-mêmes marabouts. Ils étaient là, mais ils faisaient aussi ce travail de marabout. Donc c'est une sorte d'expertise qui est reconnue aux Sénégalais, mais qui a une ambiguïté au niveau de la religion. C'est-à-dire le rapport magie. Religion est toujours un rapport assez... assez problématique. Quand on est dans la magie, on est en fait dans les frontières du religieux. On est dans les pôles extrêmes. Donc d'une certaine manière, ça valorisait les Africains, mais ça les valorisait en mettant aussi en avant le fait que la vraie magie, c'est pas la magie qui est dans l'islam, c'est la magie qui est aux frontières en fait du religieux, aux frontières en fait du licite. Et cette position, cette situation, me semble-t-il, renforçait aussi cette ambivalence des relations entre musulmans subsahariens, en tout cas musulmans marocains et comment dire, sénégalais et musulmans marocains. Et j'avais envie de faire un parallèle, d'ailleurs, sur la base de ces observations, avec le statut de certaines populations au Maroc, les Gnawa, qui, justement, sont, comment dire, référés à une origine africaine, et également aussi à cette expertise dans le domaine magique, qui est toujours considéré comme étant aux frontières du religieux légitime et du religieux illégitime. Voilà, donc c'était un peu ces points que je voulais soulever en introduction. Comme je l'ai dit, l'idée pour moi, c'était d'essayer de faire un lien entre les migrations africaines vues du point de vue de l'Afrique, vues du point de vue aussi des espaces intermédiaires et vues du point de vue des espaces d'arrivée, avec toujours cette comment dire, préoccupation qui me poursuit, qui est celle de la place du religieux dans la construction des identités de groupe et dans les contextes de mobilité. Et là, ce qui se passait dans le contexte marocain me semble être un laboratoire intéressant de réflexion à la fois sur des problématiques de l'ethnicité, de la couleur et aussi de l'identification religieuse. Je ne l'ai pas abordé du point de vue de la société française, mais bon, peut-être que dans les débats, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Mohamed. On vous laisse, comme d'habitude, tout de suite la parole pour que vous puissiez profiter de du grand quart d'heure, allez.
C'est cette migration qui semble a priori masculine, peut-on dénombrer le pourcentage qu'il y a dans le pays? Quel est le nombre de migrants qui partent du pays? Et quel impact ça peut avoir sur le pays? Ça, c'est une première question. Et quelle est la destinée de ces migrants à la fin? Et il semble qu'elle soit aussi uniquement masculine. Du moins dans cette migration particulière.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter une question dans la foulée de celle-ci ou on répond par question? Enfin, tu peux y aller.
Le nombre et le pourcentage, bon, ça dépend hein, si je pars du Mali, si je parle du Sénégal. En tout cas, je n'ai pas de chiffres. Ça, c'est... Je ne suis pas très à l'aise avec les chiffres, ni familier avec les chiffres, surtout quand on parle des migrations. Mais il y a toujours un effet de prisme déformant. Quand on travaille sur les migrations, on croit que tout le monde est migrant et que tout le monde est parti ou que tout le monde veut partir. Je pense que l'écrasante majorité n'est pas partie et est toujours là-bas. Si on travaille sur les migrations européennes, on pense que la grande majorité se trouve en Europe. Non, la plus grande partie des flux migratoires se déroule dans des espaces de proximité dans le contexte africain. Tout dernièrement, le Maroc a lancé une campagne de régularisation, je pense que c'était jusqu'en décembre, pour que les migrants subsahariens viennent s'inscrire et qu'ils passent à la délivrance de titres de séjour. Ils sont surpris par le nombre de personnes qui s'est manifestées. Donc la question c'est, les autres ne veulent pas se manifester ou c'est tout simplement, ils avaient surestimé le nombre de migrants subsahariens. Les échanges avec responsables associatifs semblent plutôt aller dans le second sens. Parce qu'on a trop médiatisé cette migration et on l'avait située à des niveaux qu'elle était loin en fait d'avoir atteint. Presque une sorte d'étonnement et de déception des pouvoirs publics de ne voir qu'il y a si peu en fait de migrants qui demandent un titre de séjour. Concernant la présence des femmes, si on regarde à l'échelle globale des migrations, la migration elle est très féminisée. Et je pense même que si on parle des migrations africaines, en tout cas en Europe, en tout cas en France, il me semble que les femmes dépassent les hommes. Dans des migrations peut-être plus récentes, comme celle au Maroc, la présence féminine est importante. Elle prend des formes aussi diverses, parce qu'entre les commerçantes qui sont dans cette circulation, qui viennent chercher des marchandises, ou qui viennent même vendre tout simplement au Maroc. La présence féminine, elle est très visible. Hein. On voit les femmes sur les grandes places qui vendent. Donc elle n'est pas si, si absente que ça, et la tendance c'est plutôt d'aller vers un ratio équilibré migration masculine et migration féminine.
En fait, moi j'avais une question par rapport là-dessus, surtout au discours qui est produit au niveau de l'État marocain. Comment vous l'avez perçu durant votre enquête de terrain? Est-ce que c'est un discours complice ou, par rapport à la question du racisme, par exemple, ou c'est un discours atténuant en fait par rapport à ces migrants sénégalais qui sont de passage au Maroc. Parce qu'il me semble qu'entre le Sénégal et le Maroc, il y a une politique de coopération qui fait que bon, les Sénégalais sont quelque part bien vus au Maroc. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain?
Il y avait une seconde question aussi, si on veut les grouper, je crois. Il y avait d'autres questions?
Mohamed, je voulais savoir si tu t'étais intéressé aussi aux relations qui pouvaient exister entre les Sénégalais et les Noirs marocains. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé dans le cadre de tes recherches, dans le parcours de ces Marocains? Et est-ce qu'elles existent? Et qu'est-ce que tu as pu, dans le cadre de ces recherches, qu'est-ce que tu as pu constater de la nature de ces relations et de leur évolution dans le temps?
Oui, je pense que l'attitude de l'État marocain, comme j'ai dit, on était peut-être dans une première phase où il y a eu plus un discours et des pratiques aussi de répression de cette immigration subsaharienne considérée comme une migration en transit vers l'Europe. Donc tout un dispositif qui entrait dans le sens de sécuriser les frontières européennes, de faire en sorte que le Maroc ne soit pas un lieu de passage. Et pendant une première période, ça n'allait pas de faire avec une politique d'immigration. Donc on est un pays de transit et il faut empêcher que le transit se réalise. C'est ce dont j'ai parlé dans la première phase avec les rafles, les expulsions à la frontière algérienne. Puis, quand même, se développe au sein de la société civile marocaine tout un mouvement associatif, des chercheurs, les migrants eux-mêmes qui s'organisent, commencent à résister, revendiquer ce nombre de droits qui, je pense, a pu avoir un infléchissement vers la prise en compte la présence subsaharienne avec, l'idée d'une politique d'accueil ou, je sais pas, d'une politique d'intégration. Mais avec toutes les difficultés, bien sûr, que ça peut avoir dans un pays comme le Maroc, où la population pense qu'il n'y a pas déjà des conditions très favorables pour les ressortissants du pays. Le Maroc ne peut pas se permettre d'être un pays d'immigration. Je pense qu'il y a cette contrainte qui pèse fortement, mais ces derniers temps, il y a j'ai l'impression une sorte d'accélération, parce que le fait qu'il y a eu toute une campagne de régularisation avec une sorte de moratoire, on ne fait plus d'expulsion, on ne contrôle plus les personnes migrantes jusqu'en fin décembre pour leur permettre justement de s'inscrire sur les listes et les fichiers de régularisation. Montre en fait des infléchissements. Et les échanges que j'ai eus avec notamment certains chercheurs, d'ailleurs marocains, c'était la question de savoir dans, en quelle mesure ça s'inscrivait aussi dans la politique africaine du Maroc. Parce que quand même, le Maroc a aussi une politique très tournée vers le continent africain. Je dis sur le plan économique, sur le plan politique, le roi n'arrête pas en fait de circuler dans les différents pays. Et c'était un peu une sorte d'interrogation. Est-ce que cette politique d'immigration, comme un pendant aussi à cette politique d'ouverture vers les pays africains, ou une sorte en fait de tâtonnement dans lequel on se trouverait dans la phase actuelle. Mais en tout cas, il n'y a pas quelque chose de très, très, de très, très clair, de très, très précis pour l'instant, j'ai l'impression. Et cette relation aussi privilégiée entre le Sénégal et le Maroc, oui, c'est très présent dans les discours. Les Sénégalais le disent, les Marocains le disent, les migrants le disent aussi, mais ça ne se traduit pas forcément par la mise sur pied d'une véritable politique d'immigration. Il y a bien un statut particulier, des ouvertures. Je pense que les Sénégalais peuvent travailler dans la fonction publique marocaine et inversement, les Marocains peuvent être recrutés dans la fonction publique sénégalaise. En droit, ça existe. J'ai eu l'occasion de voir un enseignant sénégalais au Maroc, donc recruté comme fonctionnaire, un médecin qui exerce aussi en libéral. Donc il y a, tout un ensemble de dispositifs qui existent, mais qui ne se traduit pas par une politique d'immigration très, très ouvertes, et c'est un peu le cas, j'ai l'impression aussi, de tous les pays africains. Quand on regarde la politique d'immigration du Sénégal vis-à-vis des autres ressortissants, en principe, le principe de titre de séjour existe, mais quand j'ai fait mes enquêtes sur les Nigérians au Sénégal, presque personne n'avait de titre de séjour. Les seuls qui avaient titre de séjour, c'était le président de l'association des Nigérians. Enfin, c'est une infime minorité, c'est délivré, mais vraiment au compte-goutte. Sur la relation entre Sénégalais et Noirs marocains, oui, j'ai essayé. J'ai des observations très, très lapidaires. Mais c'est vraiment difficile pour moi de tenir un discours sérieux et scientifique là-dessus, parce que tellement les observations sont très 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 éparses, et de ce que j'ai vu, c'était pas forcément une démarche de d'identification. C'était plus une démarche de différenciation. Et là, le statut de Marocain et du non-Marocain, le clivage entre Marocain et non-Marocain, étant l'élément qui séparait ces populations. Mais je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler aussi en fonction des régions. Par exemple, dans certaines régions comme le sud, parce que c'était ça l'optique, où peut-être cette présence de populations noires était beaucoup plus importante, interpréter ou analyser ces relations. J'ai eu l'occasion d'aller justement dans le sud, je ne me rappelle plus le nom de la ville, qui est très utilisée pour le cinéma. Et comme vous le savez, beaucoup de films sont tournés au Maroc, dans les studios au sud de Marrakech. C'est Ouarzazat, voilà, c'est ça, Ouarzazat. Et souvent, ces films font appel à des migrants subsahariens pour être des figurants noirs, notamment dans les films américains, où la présence des noirs est aussi nécessaire. Donc tous ces films, Black Hawk Down, qui sont très connus, ont été tournés dans ces zones et ont été des moments, d'ailleurs, quand les migrants en parlent, des moments, comment dire, prospères, parce qu'ils ont eu du travail, ils ont gagné beaucoup d'argent en jouant le rôle, justement, de figurants noirs dans ces films. Mais comme je dis, même dans des villes comme Ouarzazate, où le contact était facile avec les populations africaines subsahariennes, où elles sont connues. D'ailleurs, quand tu circules dans la rue, souvent on me demandait si j'étais acteur. Parce qu'ils sont habitués à voir des Africains qui viennent tourner des films. Et j'avais suivi justement dans cette, comme je disais, dans cette démarche itinérante, où parfois je suivais des gens parce qu'ils allaient tourner des films. J'ai dit, bon, allez, je vais avec vous à Ouarzazate. Donc, ils avaient cette réputation d'acteur, mais j'ai vraiment du mal à, comment dire, tenir un discours plus construit sur la relation entre Marocains noirs, entre guillemets, et les subsahariens, quoi. Je pense que c'est un travail, finalement, après, c'est un peu l'idée que j'avais retenue, qui serait peut-être plus facilement menée par quelqu'un de la société marocaine et qui s'intéresserait à cette dimension, quoi.
Oui, vous avez parlé de l'importance des réseaux sociaux et de. Alors moi, je me demandais, avec tous les moyens de communication que tout le monde a, y compris tous ces migrants que vous avez rencontrés, comment ça se fait qu'il ne se passe pas le message des dangers, des aléas de la migration, du fait qu'ils vont être mal accueillis, etc. Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Oui, je pense que ça nous ramène à, comment dire, à cette question que j'avais posée au début, qui est que, mais comment on peut aller dans des attitudes aussi extrêmes? En tout cas, de ce que j'en ai compris, parce que comme je disais au départ, ça me terrorisait presque ces questions, je disais que c'est des héros. Puis je me suis rendu compte que, même n'étant pas un héros moi-même, je ferais comme. Et qu'en fait, il faut le voir comme une logique d'enchaînement. C'est-à-dire, on n'est jamais confronté d'emblée à la situation extrême. Mais c'est une évolution progressive. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit que finalement, même toi, Mohamed, si tu étais dans cette situation-là, où tu quittes le Sénégal, tu passes par la Mauritanie, tu endures des épreuves, tu y vas. Chaque fois, tu fais un peu plus. Donc, tout ce que j'appelle cette socialisation par la route. Et puis, on te dit ensuite, c'est là-bas. Il ne reste plus que ça pour arriver à terme. Je pense que quand on regarde, quand on remémore en fait le chemin, ce qu'on a fait, le saut qualitatif, mais il devient presque quantitatif là, d'une certaine manière, entre ce qui s'est passé et ce qui reste à faire, devient, comment dire, très 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 facile, quoi. Je pense donc qu'il y a toute une préparation. Qui permet de comprendre en fait ces engagements extrêmes. Peut-être que dès le départ, oui, ça aurait été un peu plus difficile, mais il me semble que c'est tout un parcours, quoi. On arrive à un moment où la question ne se pose même plus. Et on est tous assez courageux pour ou suicidaires ou aveugles pour faire ça, quoi.
Je crois qu'on va vraiment te remercier sur ces mots.
Merci.
Ce que tu viens de dire me permet juste d'ajouter que une des dernières livraisons vous savez qu'à Poitiers est publiée la revue européenne des migrations internationales, et une des dernières publications est donc dédiée à cette question dont Mohamed vient encore de livrer quelques éléments de réflexion ici. Ça s'appelle Composer la frontière ou Composer avec la frontière, passage parcours migratoire, échanges sociaux, qui est vraiment dédié à la réflexion que peuvent porter les chercheurs sur cette question-là et sur ce que vient d'évoquer Mohamed, où la relation avec ce passage est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. En tout cas, beaucoup plus complexe d'une certaine manière, on va encore appuyer un peu sur eux, mais beaucoup plus complexe que peuvent le laisser penser pas mal de médias, comme s'il y avait une sorte de ligne droite comme ça entre l'origine et le départ. Et en fait, c'est bien beaucoup plus en termes d'expérience qu'il faut le penser et en termes de parcours. Donc voilà. Merci beaucoup. Et la prochaine conférence, on a parlé de la migration féminine tout à l'heure. Elle sera donnée par Shadia Arab, qui est une chercheuse du CNRS qui est en poste à Angers et qui viendra vous parler donc jeudi prochain, jeudi 12, de la question des femmes marocaines en migration. Voilà, merci beaucoup.